Après ce beau temps de prière que nous avons eu par la grâce de Dieu, j'avais ces paroles du psaume 22 qui résonnaient dans mon cœur, et quand je les ai lues, c'est presque les larmes aux yeux que j'avais, frères et sœurs. Et je vous lirai simplement deux versets. Le premier, c'est le verset 23 du psaume 22. « Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Psaume 22, c'est une prophétie sur les souffrances du Messie, mais aussi une prophétie sur la résurrection du Messie et la postérité qui va le servir. Et c'est tout ce qu'il y avait dans mon cœur, et quand j'ai lu ces paroles qu'on peut faire nôtres parce qu'on a cet esprit de Jésus dans notre cœur, ô combien elles m'ont touché, « Je publierai ton nom parmi mes frères. » Tout ce qu'on fait depuis hier, publier son nom qui signifie « Dieu avec nous », l'Emmanuel. Il y a d'autres noms de Dieu, bien sûr, mais vous savez, rien que sur l'Emmanuel, on va faire aujourd'hui, dans cette première partie de ce deuxième volet, un survol. Mais on va vraiment survoler. Et je vais devoir me retenir de dire sans cesse « On survole, on doit passer dessus. » Et on pourrait passer toute l'après-midi, toute la nuit, toute notre vie, et on va passer toute notre éternité à se rendre compte de ce cœur de Dieu. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et le verset 31 de ce même psaume 22, la postérité le servira, on parlera du Seigneur à la génération future. Et c'est tout ce que le Seigneur met dans mon cœur, de parler de lui à notre génération. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, cette postérité de Jésus. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Que Dieu me fasse cette grâce d'annoncer, bien pauvrement certes, mais avec tout mon cœur, son œuvre au peuple que nous sommes. Et je voulais vous dire encore, ô combien, quand on lit ces paroles, quand on publie le nom du Seigneur, quand on annonce son œuvre à cette génération, il y a d'autres psaumes, c'est tout ce qu'il y avait dans le cœur de David, d'annoncer son nom aux générations futures, vous voyez. Eh bien, j'aimerais vous dire ma conscience profonde, et c'est une grâce de Dieu dans mon cœur, de voir mon appartenance, et bien sûr la vôtre, mais c'est un témoignage personnel que je fais en introduction, mon appartenance à toute cette chaîne, d'hommes, à toute cette chaîne de générations, depuis Noé, depuis Abraham, depuis nos patriarches, depuis nos pères. Vous savez, dans la Bible, parfois, on rechigne à lire toutes ces généalogies, et elles sont pourtant tellement profondes, tellement puissantes, tellement belles. Elles sont la marque que notre Dieu, c'est le Dieu de l'histoire, et qu'on est tous reliés, vous voyez, on est tous unis, même ces générations il y a 3000 ans, qu'on peut lire dans la parole, on est des frères, on est cette même famille, on est ce même chaînon. Et le but de Dieu, l'Emmanuel, c'est d'accomplir, de faire resplendir dans sa gloire éternelle toute cette chaîne d'hommes et de générations qui ont fait mémoire de son nom, qui se sont souvenus de lui pour s'attacher à lui, et ainsi être ses fils et ses filles. Et ô combien il est bon de faire mémoire de ça, et on ne vient pas comme un cheveu sur la soupe, frères et sœurs, on fait partie d'une chaîne de générations qui adore. Et je le dirais certainement ce soir dans la deuxième partie, rien que le fait qu'on soit aujourd'hui l'Église du Seigneur, malgré tout ce qu'on pourrait reprocher à l'Église, qu'on puisse avoir une Bible, qu'on puisse avoir eu des gens qui nous ont parlé du Seigneur, qui font que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, est une preuve absolument extraordinaire que Dieu est l'Emmanuel. Qu'on puisse nous parler du Dieu de nos pères aujourd'hui. Quelle preuve que Dieu est avec nous, qu'il n'a cessé d'être malgré ses manquements avec l'Église. Il a cessé d'être avec l'homme pour qu'on puisse faire mémoire de son nom et ainsi avoir cette grâce d'appartenir à toute cette chaîne de serviteurs, d'enfants de Dieu, d'adorateurs, du même Père, du même Dieu. C'est tellement fort et c'est une révélation qu'il faut que l'on continue d'avoir. Ce Dieu qui était, il est et il vient. Et son but, c'est que nous soyons avec lui pour toujours. C'est ce que nous avions partagé et on avait terminé par cette parole de Pierre qui nous invitait à désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que par lui vous croissiez pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon. On voit que quand on regarde à lui, quand on l'adore, quand on a fait ce saut et qu'on vit ce saut comme j'en ai parlé amplement, on voit qu'on ne peut que dire que le Seigneur est bon. On est même rempli de sa bonté. Et on avait vu que Pierre cite ce magnifique psaume 34 de David en disant « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon ». Un psaume que David avait écrit au sein même de la détresse. Et on s'était arrêté en disant que si l'on sait que le Seigneur est bon, parce qu'on le vit, en s'attachant à lui, en gardant ses commandements, parce qu'on l'aime en vivant, en croquant dans le fruit et en connaissant toute sa saveur par une véritable nouvelle naissance et une vie nouvelle de chaque jour, rien ni personne ne pourra nous séparer de cet amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ. Et ce même Pierre qui rapporte ce psaume de David, la tradition nous dit qu'il a été obligé d'assister à la crucifixion de son épouse. Vous savez que Jésus guérit la belle-mère de Pierre et qu'elle se lève, la fièvre la quitte et qu'elle sert Jésus et ses apôtres. S'il a guéri sa belle-mère, c'est que Pierre était marié. Paul en fait notamment allusion. Et la tradition, et je pense qu'elle est sérieuse, rapporte qu'on a obligé Pierre à assister à la crucifixion de sa femme. Et j'aimerais que vous méditiez, qu'on médite juste quelques instants sur cette scène. Imaginez-vous devoir assister à la crucifixion de son épouse. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas des paroles en l'air, mais que c'est du vrai et c'est du vécu. Que celui qui a goûté au combien le Seigneur est bon et qui vit dans cette dimension de l'esprit, il n'y a rien ni personne qui peut le séparer. Il y a une force vive et réelle qui est en lui. Et vous savez ce que la tradition rapporte, c'est que Pierre, il encourageait sa femme. Il l'encourageait. Et qu'est-ce qu'il disait à sa femme, crucifiée sous ses yeux? Il lui disait, souviens-toi du Seigneur. Souviens-toi du Seigneur. On sait que par la suite, lui-même a été crucifié et qu'il a demandé d'être crucifié la tête en bas parce qu'il n'était pas digne de mourir comme son Seigneur. Ce n'est pas des contes de fées, ça. Il y a aujourd'hui des chrétiens de par le monde, énormément de récits, notamment en Chine, qui vivent des persécutions, des souffrances. Et ce n'est pas l'héroïsme qui leur permet de faire face à ça, c'est l'amour de Dieu. C'est qu'il y a une révélation puissante plantée dans leur cœur, qu'il est l'Emmanuel. Et ils ont goûté, ils sont devenus vraiment des fils et des filles du Dieu Tout-Puissant. Et cette force vive du Seigneur, elle est en eux. Et d'où vient cette force? Eh bien cette force, comme Pierre l'a dit à sa femme, elle vient du souvenir de Dieu. Souviens-toi du Seigneur, lui disait-il. Elle vient de la connaissance du vrai Dieu, du Dieu vivant. Et comment cette connaissance, cette vie, elle devient effective dans nos vies? C'est lorsqu'on se rappelle, qu'on rappelle le souvenir de l'Éternel, qu'on rappelle ses œuvres. Et ça, bien aimé, c'est quelque chose de central dans la Bible. C'est un fondement qui doit être posé et mis en pratique dans nos vies. Posé dans nos cœurs et mis en pratique dans nos vies. Le fait de faire mémoire, de se souvenir de Dieu. Vous voyez cela à travers beaucoup de psaumes, et en particulier dans la détresse. On se souvient du nom de l'Éternel, comme on l'a lu dans la première partie. « Qu'as-tu mon âme à défaillir? Je le louerai encore, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais me souvenir de lui. » Depuis le Jourdain jusqu'à la montagne de l'Hermon, je vais faire mémoire du Seigneur. Parce que dans la Bible, quand on fait mémoire du Seigneur, le Seigneur est là. Le Seigneur vient Et quand le Seigneur est là, tous nos combats, toutes nos réflexions, elles fondent comme la cire. Les montagnes, aussi grandes soient-elles, fondent comme de la cire devant l'Éternel. Vous savez, dans certaines églises, de prier ou proclamer le nom de Jésus ou le sang de Jésus, c'est devenu une véritable superstition. Quand on dit au nom de Jésus, c'est pas de la magie. C'est pas que c'est magique. C'est que quand on dit au nom de Jésus, c'est qu'on fait mémoire, ou quand on dirait le sang de Jésus, on fait mémoire de son sacrifice il y a 2000 ans, et on rappelle l'œuvre de Dieu. On rappelle le nom de Dieu, et ainsi, c'est pas une formule magique, mais c'est Dieu lui-même qui est là. C'est pas le nom de Jésus qui délivre, c'est Jésus lui-même. C'est sa présence même qui délivre, qui sauve, qui guérit. Et ça, c'est quelque chose de profond et d'important, un fondement qu'on doit mettre en pratique. Rappelle les œuvres de l'Éternel. Quand tout va mal dans ta vie, rappelle ses œuvres. Dans la Bible, dans l'histoire, et dans ta propre histoire aussi. Rappelle-toi du jour où il t'a sauvé. Rappelle-toi de sa fidélité. Rappelle-toi comme il t'a conduit. Et tu vas voir que le fait de te rappeler de ses œuvres, de faire mémoire de ton Dieu, pense à lui, pense à la tsunamite et retrouve la vision céleste. Et tu vas voir que tout va s'évanouir et que tu vas te tourner vers lui, regarder à lui et t'envoler. Et vivre cette bonté de Dieu. C'est tout le sens des fêtes de l'Éternel. Dieu, il a donné des temps à son peuple. Il a donné le Shabbat, et il a donné les fêtes du printemps, les fêtes d'automne. Chaque fête et le Shabbat est là pour se rappeler de l'Éternel, pour faire mémoire de lui, ainsi sanctifier son nom et que son règne vienne au milieu de son peuple. On lâche tout et on regarde à lui. En particulier, Pâques, Pessah et le repas du Seder. On faisait mémoire de la sortie d'Égypte. Dans les 10 paroles, les 10 commandements, si l'on veut, eh bien, le premier, c'est ce que Dieu dit à son peuple. Vous pouvez lire dans l'Exode 19, il lui rappelle qu'il est le Dieu qui l'a fait sortir d'Égypte. Dieu lui-même rappelle à son peuple les œuvres qu'il a faites pour que son peuple s'attache à lui, le craigne en vérité, soit libre, soit sien. Et tout, juif pieux, et à Shabbat, et à Pessah, se sent vivre la sortie d'Égypte. Il est sorti d'Égypte. Et son Dieu est tout proche de lui. Et ô combien les juifs ont cette conscience que je viens de vous rappeler, de leur appartenance à cette chaîne de générations qui s'est attachée à Dieu, que Dieu a libéré, que Dieu libérera encore et qu'il glorifiera dans son règne. Et c'est tout ce que j'aimerais faire aujourd'hui, nous aider à nous souvenir du Seigneur et nous aider à méditer sur celui qui est bon, sur celui qui est l'Emmanuel et j'oserais dire le passionné des passionnés. Et qu'alors ce souvenir du Seigneur, un Seigneur qui, on va le voir, il est tout sauf extérieur à nous, nous demandant de lui plaire par devoir faire, mais un Seigneur qui désire au contraire avec force et passion faire un avec nous. Que ce souvenir bien-aimé, il allume, ou il ranime, ou il fasse encore croître ce feu de l'amour filial dans nos cœurs. Ce feu de la réalisation qu'on est ses enfants. Qu'il est notre Père, qu'il est l'Emmanuel avec nous, et qu'alors rien ni personne puisse nous en séparer, et qu'on le loue tant que nous existerons, comme le dit le psalmiste. Que comme Pierre, quoi qu'il arrive, on puisse nous exhorter les uns les autres, même dans les pires situations, souviens-toi du Seigneur, et nous encourager à tout donner pour lui, comme il a tout donné pour nous, jusqu'à la fin. Alors, on va voir en quoi ce Dieu est avec nous. Et on va, comme je vous l'ai dit, survoler Et vous allez voir, je l'espère, si Dieu me donne sa grâce pour en parler, que comme dit Paul, le Dieu de ce siècle a aveuglé notre intelligence, afin qu'on ne voit pas briller la splendeur de la gloire de Christ, de la gloire du Messie, qui est l'image de Dieu. Comme je vous l'avais dit en introduction, on a des véritables écailles qui doivent tomber de nos yeux quant à la nature de Dieu. On a, bien aimé, un conditionnement profond qui fausse l'image de Dieu. On a une fausse image d'un Dieu encore beaucoup trop contre nous, alors que lorsqu'on scrute les Écritures et que l'on médite profondément sur les Écritures, il en est tout autrement, tout autrement. Et que Dieu me donne de vous le prouver. Et qu'avec ce que je vais vous donner, comme ce sera un survol, vous puissiez lire d'un bout à l'autre la parole de Dieu et approfondir cette méditation d'aujourd'hui et en être béni. Dieu est un passionné, il veut être avec nous, il veut être avec l'homme. Il est l'Emmanuel. Et il est, comme j'en avais dit quelques mots, dès le départ, l'Emmanuel, parce qu'il crée. Dans le simple fait de créer la terre et les cieux, c'est une preuve qu'il est avec nous, qu'il donne, qu'il n'est pas contre nous. Sinon, méditez, il n'aurait tout simplement pas créé. La création, frères et sœurs, c'est parce qu'il est vie, c'est parce qu'il est amour, c'est parce qu'il est passionné, c'est parce que son cœur est rempli de bonté, est rempli d'amour. C'est parce qu'il déborde, vous voyez. J'écrivais entre guillemets, il n'est même pas amour, c'est une réflexion, d'accord, c'est pas théologique. Il n'est même pas amour, mais il déborde d'amour. Et la création, c'est le débordement de son amour. Voyez, je lisais un psaume aujourd'hui où le Seigneur disait à son peuple, « J'ai pas besoin de vos holocaustes. C'est pas pour ça que je vous aime. Parce que j'ai pas faim, c'est moi qui a tout créé. » Comment le Seigneur aurait-il faim? Il aurait besoin de viande? Il aurait besoin de quelque chose? Non, c'est vos cœurs que je cherche. C'est vos cœurs que je cherche. Est-ce que Dieu, il aurait besoin d'avoir créé? Est-ce qu'il est un Dieu qui, à qui quelque chose manque? Non. Il est tout à fait suffisant en lui-même, vous comprenez? Il est Dieu. Mais il est un Dieu d'amour et un Dieu passionné. Et il crée parce que son amour déborde. Parce qu'il veut donner de ce qu'il est. La création montre que Dieu est amour et que Dieu est don, que Dieu est avec nous, que Dieu est... C'est complètement farfelu et même insensé de voir un Dieu contre nous dès le départ, frères et sœurs. Parce que quand on médite sur la création, on voit qu'il est don, on voit qu'il est avec. Sinon, il ne l'aurait tout simplement pas fait. Alors méditons sur le simple fait, entre guillemets, parce que ce n'est pas un simple fait d'avoir créé toute cette création absolument admirable et majestueuse, mais sur ce simple fait, entre guillemets, d'avoir tout créé. Et il ne l'a pas fait pour lui, frères et sœurs. Il ne l'a pas fait pour lui, il l'a fait pour nous. Il l'a fait pour nous. On a déjà pu le voir, il veut faire un avec nous. Et si Dieu a créé toutes choses, puis si Dieu, on va le voir, a créé l'homme, c'est dans le but de partager son amour, de partager sa bonté, de la donner, cette bonté, cet amour. Et méditez quelques instants. Dieu aurait pu ne pas créer. Pourquoi l'a-t-il fait? Dieu aurait pu ne pas créer. Il n'aurait pas été Dieu pour autant. J'ai presque envie de dire au contraire. Parce qu'on va voir, tout au long de ce survol de l'Emmanuel, de la bonté de Dieu, qu'il y a un contraste entre la bonté de Dieu qui donne tout et qui aime, et l'homme qui, au lieu d'être avec Dieu, persiste et signe à être sans Dieu, et à ne pas reconnaître son Dieu, et à même en vouloir à Dieu. Donc il aurait presque plus été Dieu. Non, parce qu'il y a des cœurs qui le glorifient, et qui lui donnent toute la gloire qui lui est due. Mais comprenez ce que je veux dire, pourquoi il a créé? Pourquoi? Il aurait très bien pu ne pas créer. Pourquoi il a créé? peut fermer les yeux et s'interroger là-dessus. La réponse, c'est qu'il est amour. C'est qu'il est l'Emmanuel avec nous. Et alors, pourquoi a-t-il créé l'homme? Il aurait très bien pu aussi ne pas le créer, n'est-ce pas? L'homme, plus on avance dans l'histoire, plus il détruit cette magnifique création de Dieu. Pardonnez-moi l'expression, il la fiche en l'air, jour après jour. Et on en parle dans les médias énormément aujourd'hui, réchauffement climatique, CO2, etc. Et puis il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que ça. L'homme détruit tout sur son passage, si j'ose dire. Alors là aussi, là encore, à la limite, il aurait peut-être même mieux fait des fois. On pourrait se dire de ne pas créer l'homme et de laisser les oiseaux chanter et pas devoir être pris dans une atmosphère qui devient de plus en plus polluée et pas mourir et laisser ces forêts éclore dans toute leur végétation et laisser tous les animaux bondir dans tous ces espaces sauvages qu'on abat pour construire des villes où on se divise et où la haine et le mal grandissent. Mais Dieu a créé l'homme. Retenez qu'il l'a créé en dernier quand vous lisez le récit de la création. Il aurait pu ne pas le créer. Mais pourquoi l'a-t-il créé? Parce que son amour déborde, parce qu'il est avec nous. Et vous pouvez prendre avec moi Genèse chapitre 1. On va lire les versets 26 à 31. Genèse chapitre 1, versets 26 à 31. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Et avant de continuer, j'aimerais vous dire, essayez de ressentir le cœur de Dieu dans ses paroles, frères et sœurs. Des fois, on manque tellement d'amour ou on perçoit si peu son amour quand on lit les Écritures. Sentez le cœur de Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voyez cet amour, faisons-le à notre image, encore si proche de nous, à peine moindre qu'un Dieu, et puis qu'il puisse dominer, qu'il puisse profiter de toute cette merveilleuse création. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Vous vous rendez compte? Pourquoi il a fait ça? Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant la semence, et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Alors après, il donne ça à tous les animaux aussi. Et verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, c'était très bon. Et il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le sixième jour. Est-ce que vous percevez tout l'amour de Dieu dans ces paroles? Tout son cœur a créé l'homme à son image. Le simple fait d'avoir créé non seulement la terre et les cieux, mais peut-être même encore plus l'homme, montre que Dieu, il a résolu, frères et sœurs. Au combien on doit résoudre de nous attacher à lui, mais lui, on doit reconnaître qu'il a résolu, il a pris la résolution d'être l'Emmanuel avec nous. Maintenant, Dieu aurait-il créé le monde pour qu'il se perde? Est-ce que Dieu aurait créé le monde pour qu'il se perde? Bien sûr que non. Dieu a créé le monde ainsi que l'homme pour la communion, pour l'amour, pour être avec lui. C'est pour ça qu'il l'a créé. Et plus que pour lui, c'est pour nous. Pour qu'on jouisse de sa vie, qu'on jouisse de sa plénitude. Lui, il est toute la plénitude. Et on a besoin, comme le prie l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens, d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur et de recevoir l'intelligence en étant fondé, enraciné dans l'amour, de voir quelle est la profondeur, la largeur, l'immensité de son amour, de la grandeur de Dieu, afin d'être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mais ce n'est pas notre amour qui va faire que Dieu va être rempli de toute plénitude. Il est la plénitude. Et s'il nous a créés, c'est pour la communion. C'est bien sûr pas pour qu'on chute, mais qu'on jouisse de tout son être, de toute sa plénitude. Et le problème, bien-aimé, c'est nous. Le problème, bien-aimé, c'est l'homme. Écoutez bien, si Dieu vient et se présente comme l'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous, c'est parce que nous, les hommes, on n'est pas avec lui. Est-ce que vous comprenez? S'il vient, j'ai envie de vous dire, avant la chute, on va le voir, il ne se serait jamais présenté comme l'Emmanuel. Ça coulait de source. Il faisait qu'un. C'était l'Éden, frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'on est créé, pour la communion parfaite avec Dieu. Mais s'il vient et qu'il a besoin de nous dire qu'est-ce que signifie Emmanuel, Dieu avec nous, c'est parce que nous ne sommes pas avec lui. Parce que nous, nous sommes séparés de lui et que lui nous veut avec lui. Il persiste et il signe malgré la chute à ce que nous soyons avec lui. C'est pourquoi, bien-aimés, après avoir tout créé, après avoir vu que tout était bon, comme on l'a lu, que tout était très bon, et après avoir donné un seul commandement d'amour et de vie à l'homme, et ce commandement qu'il avait donné à l'homme de ne pas toucher aux fruits de l'arbre interdit, c'était pourquoi ? Pour pas qu'il meure, tout simplement, pour pas qu'il perde cette communion. Si tu goûtes à cet arbre, si tu manges ce fruit, sûrement tu mourras. Son seul commandement, c'était pour garder l'homme de perdre cette communion. Il a fallu que l'homme puisse faire cette folie de croquer ce fruit interdit, vous voyez. Alors imaginez-vous le cœur de Dieu après cette chute. Imaginez-vous le cœur du Père quand il vient dans ce jardin avec tout son cœur. Comme on va le lire qui dit « Où es-tu ? Où es-tu ?» Moi, c'est un verset qui, première fois que j'ai lu la Bible d'une manière régénérée par le Saint-Esprit qui m'avait été donné par la grâce de Dieu, qui a percé mon cœur. Où es-tu ? Où es-tu ? Cœur de Dieu, il est brisé, frères et sœurs. Il est complètement brisé. On ne peut pas se mettre à la place de Dieu. Le Seigneur nous dit, tu t'es imaginé que je te ressemblais. Il ne nous ressemble pas. Mais je le dis pour la réflexion, essayons de nous mettre à la place de Dieu quelques instants. Qui a tout créé, qui a tout donné à l'homme, qu'il avait fait de peu moindre qu'un Dieu, comme nous dit le psalmiste, à qui il avait tout donné, un homme qui jouissait d'une communion absolument merveilleuse avec lui, avec leur Père céleste, mais aussi ensemble. La Bible nous dit qu'ils étaient nus, qu'ils n'en avaient point honte. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient libres. Tout était beauté. La corruption n'était pas là. La mort n'était pas là. Tout était beau. Tout était merveilleux. Il faudrait prêcher sur l'Éden pour comprendre ça. Et ce Dieu qui avait vu que tout était bon, très bon, qui avait tout donné à l'homme, voilà qui vient. Imaginons-nous son cœur. Prenons la suite de ce que nous lisions. Dans Genèse chapitre 1, on s'est arrêté au verset 31, qu'il a vu que tout était très bon, et on va lire les trois premiers versets du chapitre 2. « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. » Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Vous voyez, le Seigneur a tout créé. Il bénit son œuvre. Il l'achève. Il se repose de toute son œuvre. Il est dans la paix du Shabbat, vous voyez, avec l'homme, en communion parfaite avec lui. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Vous voyez, si je puis dire, comment était le cœur de Dieu ? Quelle était sa disposition ? Lui qui avait tout donné, qui avait tout fait de manière merveilleuse. Quelle paix il y avait dans son cœur ? Mais voilà, l'homme va chuter. L'homme va chuter. je me mets, si j'ose dire, à la place du Seigneur. C'est comme tu peux tout donner pour quelqu'un. Je pourrais prendre un exemple, par exemple, quelqu'un qui donne tout pour une personne qui est alcoolique, par exemple. Et le Seigneur la délivre, et la personne est transformée. Et ou ça peut être une personne qui se drogue, ou ça peut être tous les péchés que vous voulez. Quelqu'un qui donne tout pour quelqu'un, et tout est beau, tout est bon, tout est très bon. Et il se repose, et Dieu bénit d'avoir pu donner toute sa bonté. Et tout à coup, il revient vers l'homme, l'homme n'est plus là, où es-tu? Et il le voit ivre. Ou il le voit, excusez-moi de le dire comme ça, shooté. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des drogués qui sont shootés, comme on dit. Mais c'est terrible, c'est terrible. Imaginez-vous si une personne qui resplendissait à nouveau. Moi, je connais une personne qui était dans la drogue, dont ma sœur était proche, et on l'a vu sortir, et on l'a vu retomber. Et c'est terrible quand vous voyez ce visage qui est redevenu mort. La corruption, la mort est revenue. Imaginez-vous ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu, qui a désobéi, qui est sorti de cette communion avec Dieu. Alors on vient de lire ces trois premiers versets du chapitre 2. Tout était bon, il a sanctifié et Dieu se reposait. Et voyez, chapitre 3, on va lire les versets 6 à 10. La femme qui vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. C'est fichu. Eux qui étaient libres, qui n'avaient point honte. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. L'Éternel Dieu qui parcourt le jardin vers le soir, à la recherche de déverser la plénitude de son amour sur ses bien-aimés. Il parcourt le jardin vers le soir. Et qu'est-ce qui se passe? Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Ils se cachent loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu, voyez, ils se cachent, ils vont loin de la face de Dieu, et là on voit tout le cœur de Dieu. Mais l'Éternel Dieu, quand bien même il se cache, il est l'Emmanuel. Lui, il ne se cache pas, mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Il l'appelle et il lui dit, « Où es-tu ? Où es-tu ?» Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Vous voyez, ça résume tous ces versets. Est-ce que vous sentez et la chute de l'homme et le cœur de Dieu? Et c'est cette chute, frères et sœurs, dans l'intelligence ouverte, diaboliquement ouverte, c'est cette chute dans l'intelligence et dans le cœur de l'homme qui va faire qu'il va perdre la vision de l'Emmanuel, qui va perdre la vision de Dieu, de la nature de ce Dieu qu'il avait créé que par amour. Il a peur et il se cache. L'intelligence déchue de la communion première avec le Père, notre raison dégénérée, c'est elle-même qui nous empêche de saisir les choses de Dieu. Et en particulier l'adoption, le fait qu'il est l'Emmanuel. Elle est comme bloquée, elle est comme incapable de le recevoir. C'est notre déchéance. On n'arrive comme plus à lâcher prise. On est esclave de nous-mêmes à lâcher prise pour accepter ce salut. Pour rentrer à nouveau dans la vie. On est comme bloqué. Voyez la différence entre le verset 9 qui nous dit « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » On a là tout le cœur de Dieu. Et le verset 10 « L'homme, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et là, on a tout le cœur de l'homme, faussé, déchu, plus avec Dieu. Alors ça, c'est des bases, frères et sœurs. Mais maintenant, qu'est-ce que va faire Dieu ? avec le cœur brisé qu'il a, qu'est-ce que va faire Dieu? Son cœur, à lui, si le cœur de l'homme est tout à coup parfaitement déchu, le cœur de Dieu, lui, il ne va pas changer. Oh, que ça brûle dans vos cœurs, frères et sœurs. Le cœur de Dieu, lui, il ne va pas changer. Il va demeurer le même. Il va demeurer avec l'homme. Quand pourtant l'homme a totalement changé, Dieu ne change pas. Et alors, après avoir parlé de l'inévitable conséquence de leur péché, qui est la séparation entre l'homme et Dieu, qui va amener à la sortie du jardin d'Éden, eh bien Dieu, la première chose qu'il va faire, tout de suite, on lit ça dans le verset 21, « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. » Tout de suite, il reste Emmanuel, de tout son cœur. Il tue un animal. Retenez que cet animal est une préfiguration du sacrifice parfait. Ça a dû être terrible pour Adam. Il a certainement dû tuer un animal pour couvrir leur péché, en attendant qu'il puisse être ôté par le sang du Messie. Parce qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Un animal a dû être tué pour que le sang couvre leur péché avant que celui du Messie puisse parfaitement l'ôter. Alors Dieu fait cet acte et par là même, tout de suite, commence à enseigner l'homme sur le salut, sur la venue du Messie, sur le sacrifice parfait, le don total de Dieu, la Vierge qui deviendra enceinte et qui enfantera un fils qu'on appellera l'Emmanuel et dont le cœur de l'œuvre sera l'expiation de nos péchés et la résurrection pour nous donner d'être réconciliés avec Dieu et d'être trouvés en lui. Vous voyez un peu ce cœur de Dieu. Dieu, malgré son cœur brisé, commence tout de suite à être avec l'homme, avec le dessein, avec les desseins qu'on va maintenant survoler de le sauver. Alors depuis la Genèse, bien-aimé, le premier livre des Écritures, depuis la chute, et même comme on vient de le voir, dès la création, dès le « au commencement », dès les premiers versets, au commencement, voilà, Dieu ouvre l'histoire. Il est avec nous. Et il va l'accomplir jusqu'au bout. On avait commencé par Apocalypse 21. Et fini, la Bible finit. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Vous voyez, au commencement, et que la grâce soit avec vous. D'un bout à l'autre des Écritures, on va voir que Dieu va être avec l'homme pour le sauver. Parce qu'il le veut, lui. C'est lui qui le veut. Alors je pose une question. Rien qu'avec cette introduction, comment alors nous a été inculquée cette conception inverse? Comment ça se fait qu'on a tous, chrétiens même des chrétiens pleinement sauvés par le Seigneur, on a encore quelque chose en nous qui nous dit que Dieu est un faux juge, j'ai envie de dire, et qu'on doit lui plaire, non pas par une passion d'amour, comme j'en ai parlé, mais par un devoir faire qui nous tue et qui par là même nous sépare de lui. D'où vient cette fausse conception de Dieu? Chez les chrétiens, mais dans le monde aussi. Pourquoi quand il nous arrive quelque chose, c'est de la faute de Dieu, alors qu'il a tout créé, qu'on s'est séparé de lui, et qu'il a tout fait d'un bout à l'autre, et qu'il le fait encore aujourd'hui, et qu'il va le faire demain pour nous sauver, y compris ses jugements? D'où ça vient, si ce n'est du mensonge? Du mensonge de l'adversaire, de l'œuvre de l'ennemi, de notre nature déchue, parce qu'elle a été séduite par le serpent. Il faut que soit plantée en nous cette vérité de la manière dont on a tronqué, dont on a détruit la vérité glorieuse de l'amour de Dieu. Emmanuel, c'est son nom. C'est sa passion, c'est son amour, c'est ce qui brûle en lui. Être un avec nous, être un père, faire un avec nous. Vous savez, tout juif pieux a pour profession de foi, Deutéronome 6, versets 4 à 6, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Pourquoi c'est le cœur de la foi de nos pères, de la nôtre? Parce que c'est la base. Écoute, Israël. Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il est le seul je suis. Il est le seul qui est avec nous. Alors reçois cette révélation. Écoute-la. N'écoute pas tes fausses pensées, tes faux sentiments. Marche par la foi. Accepte ces vérités. Écoute. Fais, comme je le disais la dernière fois, et tu comprendras. Et ainsi, ça va jaillir de ton cœur. Tout ce à quoi tu es appelé, c'est à m'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces commandements que je te demande, ce n'est pas des préceptes et des préceptes pour te tuer, c'est une parole de vie pour te garder en communion avec moi. C'est pourquoi ils seront dans ton cœur. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Le Seigneur est un. Il est le seul, il est un, c'est ce que ça veut dire en hébreu. Et ça, c'est tout son cœur, c'est tout son but, être un avec nous. Alors rentrons maintenant dans une première partie brève de son œuvre, de ses œuvres. Souvenons-nous, faisons mémoire du Seigneur véritable, de son œuvre qui prouve ô combien il est l'Emmanuel, et ce, bien-aimé, d'un bout à l'autre des Écritures. Et comme je vous le disais en introduction, voyons ce contraste total entre l'homme et Dieu. Si Dieu est l'Emmanuel, c'est parce que l'homme est sans Dieu. Il est l'eau Emmanuel, l'homme, vous voyez. C'est-à-dire, il n'est pas avec Dieu. Dieu est avec nous parce qu'on n'est pas avec lui. Alors, commençons par la Genèse. Commençons ce survol par la Genèse. On a vu ô combien, dès la création, puis après la chute, malgré cette chute, oh, il aurait pu le laisser mourir, l'homme. Et puis c'était fini, frères et sœurs. C'était fini. Mais non, tout de suite il vient. Il fait un sacrifice, il les revêt de peau. Et finalement, presque, il les encourage. Vous voyez. Ensuite, après que Dieu ait réparé le péché, on n'a qu'un. Tout de suite, la génération suivante, on n'a qu'un qui tue Abel. Vous voyez le cœur de l'homme. Qu'un qui tue Abel. Et pourtant, Dieu l'avait prévenu. Vous pourrez lire, ceux qui veulent noter, Genèse 4, versets 6 et 7, ces paroles d'encouragement véritable de Dieu à Caïn de ne pas se laisser dominer par son péché. Dieu l'avait prévenu, Dieu avait parlé à son cœur, Dieu avait été avec lui pour ne pas qu'il fasse ça. Mais c'était plus fort que Caïn de ne pas écouter Dieu. Et il a tué. Alors qu'est-ce qu'il devait faire, Caïn ? Qui tue ? Il devait mourir. Mais lorsque Dieu, c'est la deuxième des parole de Dieu qui perce notre cœur dans la Genèse, Dieu qui s'adresse directement à l'homme lorsqu'il vient encore une fois avec le cœur brisé et lui dit « Caïn, qu'as-tu fait ?» Après le « Où es-tu ?» on a ce deuxième appel de Dieu au cœur de l'homme. « Caïn, qu'as-tu fait ?» Et alors que Caïn mériterait la mort, et même vous méditerez sur ce passage que Caïn est arrogant avec Dieu, parce qu'il y a une conséquence au péché de Caïn, mais il mériterait la mort. Mais Dieu ne va pas le faire mourir. Mais comme l'homme a dû être séparé du jardin d'Éden, il y a une séparation de Caïn, et Caïn parle avec Dieu avec une telle arrogance. Mais là, le juste jugement de Dieu aurait dû même tomber sur Caïn. Mais vous voyez que Dieu, dans sa miséricorde, pour répondre à l'arrogance et à la plainte de Caïn, il met sur lui un signe pour que personne ne le touche et que personne ne le tue. Vous voyez ce cœur de Dieu qui nous dépasse, frères et sœurs, dès le départ dans les Écritures. Alors, ce Dieu miséricordieux qui pardonne, l'homme va quand même lui rendre gloire, l'homme va quand même l'adorer, l'aimer. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est la déchéance totale. Prenez avec moi Genèse, chapitre 6. C'est la déchéance totale. Verset 5. Et j'aimerais vous lire à nouveau ces paroles avec douceur. Genèse 6, 5 à 8, on va lire. Avec la douceur, parce que je crois que c'est vraiment ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Beaucoup de douceur, beaucoup de brisement dans ces paroles. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. J'ai envie de dire, comme vous voyez dans Jérémie 2, « Cieux, soyez étonnés de cela, saisis d'épouvante. » C'est Dieu qui dit ça au travers du prophète Jérémie. Parce que son peuple a commis un double péché. Il l'a non seulement abandonné, mais il s'est creusé des citernes. Qui bien sûr sont crevassées et qui ne retiennent pas l'eau. Alors on voit, là pour moi c'est pareil. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les... Écoutez le cœur de Dieu. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Lui qui a tout créé pour donner son amour débordant d'amour et de bonté, il voit que toutes leurs pensées se portent chaque jour uniquement vers le mal. Sentez cette blessure dans le cœur de celui qui est amour, qui avait tout créé pour l'amour, pour la communion avec l'homme. On est complètement à l'inverse là. C'est un échec total. Il faut le dire. C'est pour ça, ces paroles qui suivent, elles sont terribles. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il revient à lui-même et il se repent d'avoir fait l'homme parce que il est brisé. Voyez ? Et il fut affligé en son cœur. Affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, parce que j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'il se dit ? Ça ne sert à rien de continuer. J'ai continué d'être avec eux. Mais je vois que ça porte pas de fruits. Ça sert à rien de continuer. Il faut arrêter. Il faut exterminer. Et puis laisser, à la limite, cette création jouir de ses fruits. Sans cette haine et ce dégât du cœur de l'homme porté uniquement vers le mal. C'était même son amour, à la limite, de tout exterminer, d'arrêter. Pour que l'amour, la bonté du Seigneur puisse resplendir dans les cieux, sur la terre. J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Alors il va le dire, depuis l'homme jusqu'au bétail, parce que aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits, parce que vous savez qu'avec la chute de l'homme, toute la création a été entraînée avec lui. Et quand bien même il est beau de voir des animaux dans la savane, eh bien c'est la loi de la jungle. C'est pas le règne messianique où le loup pètera avec l'agneau, voyez-vous. Où ils dormiront, ils se reposeront ensemble. C'est un déchirement aussi dans la nature. On voit la corruption. Malgré la beauté des arbres, eh ben, ils vont tous à la mort. Et Seigneur, qui est amour, qui est vie, frères et sœurs. Dans toutes les lois et les prescriptions du tabernacle, on a la vie. On peut les comprendre que par la vie. Pourquoi une femme est impure? Quand elle a ses menstruations, c'est parce qu'elle n'a pas donné la vie. Et ce qui pouvait recevoir la vie est percé, si je puis dire, et coule. Et c'est le symbole de la mort. Alors on ne s'approche pas du temple parce qu'il est la vie. C'est la source même de la vie. Quand un homme a une perte, cette perte, elle était faite pour donner la vie. C'est un symbole de, donc que la vie n'a pas été donnée. Alors on ne s'approche pas de la vie. Tout est donné pour nous dire que Dieu est la vie. Alors il dit, je me repens de les avoir faits, je vais tout exterminer. Mais lisez le verset 8. Mais, souvent l'homme il dit, mais, hein, on va le reprendre, oui mais là c'est tout l'inverse dans le cœur de Dieu. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Vous voyez, Dieu il se repent, Dieu il est brisé, mais c'est plus fort que lui, frère. C'est plus fort que lui, parce qu'il est amour, parce qu'il est passionné. Il parle à Noé et il lui demande de fabriquer une arche. Il est l'Emmanuel. C'est plus fort que lui. Il veut tout exterminer et il doit le faire, parce que c'est son juste jugement, c'est bon. Mais il se dit, des fois, attention, je ne pense pas du tout ce que je vais dire, mais c'est pour nous aider dans notre réflexion. Des fois, on pourrait avoir l'impression que Dieu est naïf. Vous voyez, c'est pour ça que Jésus a dit, si vous ne redevenez pas comme ces petits-enfants, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux, parce que c'est à cela que le royaume est donné. Il faut ressembler à ces enfants, sous-entendu, c'est à cela que ressemble le royaume des cieux, le cœur de Dieu, l'innocence, la pureté. C'était un symbole fort, que dans le jardin d'Éden, ils étaient parfaitement nus, vous voyez. Et des fois, on pourrait croire que Dieu est naïf, par son innocence. Oui, j'extermine, mais Mais je fais grâce à Noé et je lui demande de construire une arche et je fais venir ses animaux et puis comme ça, avec ce déluge, on va pouvoir repartir, vous voyez. Et ça va pouvoir marcher, je vais pouvoir être avec l'homme et on va pouvoir construire une communion ensemble. Mais qu'est-ce que l'homme va construire? La tour de Babel, vous voyez, frères et sœurs. Pourquoi? Pourquoi? Le cœur de Dieu, il saigne tellement. Et c'est tellement aberrant que le cœur de l'homme, face à ce cœur de Dieu, qui espère sans cesse et qui n'a eu cesse d'aller avec l'homme, on a un homme qui a une conception d'un Dieu qui n'est pas avec lui. C'est une folie pure, voyez-vous. Alors vient le déluge. Et après le déluge, la tour de Babel. Mais avant la tour de Babel, Dieu qui est omniscient, Dieu qui savait déjà que l'homme allait vouloir s'élever jusqu'aux cieux, symbole même comme ces obélisques de la puissance diabolique de l'homme à s'élever contre Dieu. Eh bien, sachant cette tour de Babel érigée dans les temps qui allaient venir, vous savez ce que Dieu fait? Dieu jure de ne plus jamais refaire cela. Il fait alliance avec tous les hommes et à perpétuité. Chaque fois que vous voyez un arc-en-ciel, voyez que dans cet arc-en-ciel, il est écrit « Je suis l'Emmanuel ». Il a juré de toute éternité, il a donné l'arc-en-ciel comme le signe qu'il ne referait plus jamais ce qu'il a fait avec le déluge. Et là encore, vous voyez tout son cœur. Alors, ma question, c'est est-ce que c'est l'homme qui lui a demandé de jurer? Est-ce que c'est l'homme qui lui a demandé de jurer? Et deuxième question, à qui il a juré? À qui il a juré? Il a juré aux hommes. Il n'y a personne qui lui a demandé et il ne l'a pas dit à un homme. Il s'est, pourrait-on dire, juré à lui-même. Parce que sinon, dès Babel, il aurait tout détruit. Mais il a juré à perpétuité. Et on a le signe dans le firmament. Et là, on a une base qui devrait mettre une confiance dans le cœur de tout enfant de Dieu, que le Seigneur, il n'est pas fait pour détruire, il est fait pour vivre. Et quand il juge, c'est parce qu'il est obligé de le faire. Mais il n'extermine pas tout, comme il serait juste, certainement juste, de le faire. Alors continuons notre survol, bien-aimé. Ensuite, il choisit Abraham, qui va devenir Abraham. Alors là, je repose la question. Qui c'est qui avait demandé à Dieu de jurer qu'il exterminerait jamais? Personne. C'est lui qui l'a décidé par lui-même. Comme c'est lui qui a décidé de créer. Comme c'est lui qui a décidé d'aller au-devant d'Adam. Comme c'est lui qui a décidé de mettre ce signe sur Caïn. Et là, c'est lui qui décide d'appeler Abraham en Mésopotamie, dans l'idolâtrie. Est-ce qu'Abraham, qui s'appelait Abraham à la base, est-ce qu'il a demandé quelque chose à Dieu? Non. Absolument pas. Absolument pas. On dira que, on va le voir, que Moïse lui-même n'avait rien demandé, mais qu'il y avait quand même des prières qui montaient pour être délivré. Mais quelle prière pouvait venir d'Abraham? Il était Abraham avec son père qui était un prêtre idolâtre. Il n'a rien demandé, c'est Dieu qui est venu à lui. La preuve que c'est lui qui engage ce processus, qu'il nous a aimés le premier. Et c'est pour ça qu'on l'aime, frères et sœurs, et que ça doit bouillonner en nous, et qu'on doit être prêt à déplacer les montagnes. Il n'a rien demandé. Et qu'est-ce qu'en essence Dieu lui dit avec ses premières paroles, qu'on voit dans Genèse 12, verset 1, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Qu'est-ce qu'il lui dit quand il lui dit « Va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » En essence, Dieu lui dit « Viens à moi. » Viens à moi, Abraham, je t'aime. Viens à moi, je veux te sauver. Viens à moi, je veux être ton père. Je veux être votre père. Je veux faire de vous un peuple. Viens, rentre dans la maison, il lui dit. J'ai une patrie pour toi. Je vais en faire ta patrie, ma maison, ta maison. Et je veux faire de toi, non Abraham, qui signifie père élevé, mais je veux faire de toi Abraham, qui signifie le père d'une multitude. Parce que par toi, je veux sauver toute nation, toute race, toute tribu sur la face de la terre. Abraham, il n'avait rien demandé. Mais Dieu est venu à lui. Il a fait de lui Abraham. Il a fait de lui un peuple pour sauver toutes les nations. Il a fait Israël pour être une lumière, répandre sa connaissance, sa volonté. Mais voilà que de la même manière que les hommes sont contre Dieu, les hommes ont une haine foncière contre Israël. C'est terrible, absolument terrible. Dieu fait tout, prouve tout. On va le voir dans une deuxième partie, aujourd'hui encore, en ramenant son peuple pour sanctifier son nom parmi toutes les nations. Et au lieu d'adorer Dieu et de se laisser sauver par lui qu'il a eu cesse d'être avec nous, on a la haine de ces choses. C'est Dieu qui le veut ainsi, c'est Dieu qui le décide et c'est pas Abraham. Voyez comme Dieu est avec nous, frères et sœurs. Et alors il nous faudrait passer des heures, mais vous pouvez tout voir comme ça, jusqu'à l'Apocalypse. Jusqu'à l'Apocalypse. Tout est là pour nous dire que malgré l'homme, Dieu veut être avec nous. Tout nous le montre, tout nous le prouve. Alors on passe maintenant à l'histoire des patriarches. L'enfant promis à Sarah, qui en plus d'être stérile, n'avait pas l'âge d'enfanter. Aujourd'hui, on dirait, comme bien même la Bible nous dit pas qu'elle a fait sa ménopause. Sarah, elle rit, mais Dieu ne rigole pas. Dieu s'engage avec elle. Puis la révélation à Isaac, à Jacob, qui eux non plus n'ont rien demandé, frères et sœurs. Jacob à Bethel, il a même dit à Dieu, avec arrogance si on peut le dire, ou peut-être qu'il avait un cœur, il avait besoin d'être confirmé, interprétez ça comme vous le voulez, mais il a dit, je vais monter chez Laban et je verrai si tu es avec moi. Et si tu es avec moi, je vais t'adorer. Voilà ce qu'a dit Jacob à Dieu. Vous voyez, les rôles, ils sont carrément inversés. C'est comme une folie que cet amour, que cette humilité de Dieu. Il va bénir Jacob en toutes choses pour lui prouver, pour lui montrer qu'il est avec lui. Les rôles, ils sont carrément inversés. Puis c'est l'histoire de Joseph. Voyez comme Dieu est avec Joseph, du début à la fin de son histoire. Puis avec son peuple, qui serait certainement mort à cause de la famine. Il utilise toutes choses pour sauver son peuple, pour que ses promesses s'accomplissent. On ne va pas parler de ça maintenant, mais c'est un vrai miracle qui s'est passé en Égypte. Quand on lit la Bible, on ne s'en rend pas compte. Cette multiplication du peuple, qui n'était pas un réel peuple, c'était une famille. C'était 70 à arriver, c'était plusieurs millions en partant. Dieu a multiplié d'une manière incroyable, et c'est pour ça qui devait être en Égypte, comme il l'avait prophétisé à Abraham. Aussi pour que l'iniquité des Amoréens arrive à son comble avant de sortir. Et voyez comme il est avec Joseph, avec le peuple. Et Joseph, bien-aimé, j'aimerais vous dire quelques mots sur lui. Il est, on le sait, une image de Jésus, une image du Messie. Joseph, il connaissait le cœur de ce père. Il connaissait que ce père, il était l'Emmanuel. Parce que vous voyez, après que les trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, aient été enterrés en Canaan, et c'est là la preuve des promesses de Dieu, en Genèse chapitre 50, versets 24-25, Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir. » Voyez le cœur de Joseph. « Je vais mourir. » Là, ils sont en Égypte. « Mais Dieu vous visitera. » Vous voyez, vous avez l'exemple typique avec Joseph et ses frères. Voyez ce qu'il y avait dans le cœur de Joseph. Mais quand Jacob meurt, ils lui mentent parce qu'ils ont peur de la réaction de Joseph. Ils ont peur que parce que Jacob est mort, Joseph va retourner tout à coup son cœur. L'homme, on est comme ça. On est comme les autres tribus d'Israël, vous voyez. Et Joseph, il montre le cœur de Dieu, vous voyez. Joseph, il leur dit, non mais attendez, n'ayez aucune crainte. Et la question, elle ne se pose même pas. Comme on l'a vu, c'est comme le père qui saute sur son enfant, qui dit, mais arrête même de me demander pardon. Tiens, prends cette robe, prends cette bague, rentre dans la maison, réjouis-toi. C'est ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Et c'est ce qu'il devrait y avoir dans nos cœurs de fils et de filles de ce Dieu Tout-Puissant. Et c'est ce qu'il y avait dans le cœur de Joseph. Regardez la confiance qu'il a en Dieu. Il dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Il est l'Emmanuel. Dieu vous visitera. Il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Vous voyez cette passion qu'il avait, même une fois mort, il voulait être dans la maison de Joseph. Amen. Même une fois mort, il voulait être dans sa patrie, sur la terre de son Dieu, d'où devait partir l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Il sait que c'est la volonté de Dieu que de sauver Joseph. Que Dieu va le faire parce qu'il est l'Emmanuel, parce qu'il est fidèle, et ce même si nous sommes infidèles. Le cœur de Joseph, c'était vraiment celui d'un fils, frères et sœurs. Alors maintenant, on avance dans ce survol, à peu près 300 ans plus tard. C'est maintenant, entre guillemets, au tour de Moïse d'être choisi à nouveau sans avoir rien demandé, vous voyez. Pour continuer à être la preuve que Dieu aime et veut sauver son peuple. Et le buisson ardent, frères et sœurs, je vous le dis avec tout mon cœur, le buisson ardent, c'est pas un homme qui l'a allumé, frères et sœurs. C'est pas un homme qui l'a allumé. C'est Dieu lui-même dans son amour, frères et sœurs. Et le fait que ce buisson ne se consume pas, c'est un symbole de cet amour. Que cet amour, il est éternel, frères et sœurs. Est-ce la main de Moïse qui a allumé ce buisson? Non. C'est l'amour de l'Emmanuel qui a allumé ce buisson, qui ne pouvait pas se consumer. Preuve et symbole de son amour éternel. Et Moïse, lui, vous méditez dans le livre de l'Exode, il va dialoguer excessivement avec Dieu. Même s'il est un des plus grands hommes de Dieu, certes, lisez son appel, méditez sur son appel. Dieu est obligé de se mettre en colère. Mais Dieu se rabaisse à Moïse en lui donnant Aaron. Dieu, il est l'Emmanuel, et quand il se révèle ainsi, alors qu'on ne lui a rien demandé pour nous sauver, on arrive à lui dire, non, pas moi, prends-en un autre, comme Jérémie, comme bien des prophètes. On n'est pas comme Jésus qui dit, voici je viens pour faire ta volonté. Moïse, il va dialoguer excessivement avec Dieu. Alors encore une fois, c'est le monde à l'envers. Amour de Dieu, bien-aimé, il est aussi patience incroyable à notre égard. C'est comme si ce Dieu, vous voyez, il doit nous convaincre. Il doit presque nous demander la permission de nous sauver. C'est fou. Mais c'est vrai. Il doit nous convaincre, et c'est ce que je suis en train de faire, de publier son nom parmi mes frères pour les convaincre que Dieu est Emmanuel et qu'il est avec nous. Qu'on cesse ainsi de murmurer comme les enfants d'Israël l'ont fait dans le désert alors qu'il leur avait prouvé ô combien qu'il était avec eux. Mais qu'on l'adore comme Caleb et Josué, qu'on le connaisse comme notre Père. Amour de Dieu, il est patience incroyable à notre égard. Et on est des fous. Comme le dit Paul, l'homme se vantant d'être sage est devenu fou. On peut prendre ensemble maintenant Exode chapitre 5. Et on va lire à partir du verset 22 jusqu'au chapitre 6, verset 8. Et que ces paroles soient comme un puissant encouragement pour nous. Qu'elles puissent être comme une révélation, bien-aimée, comme une sécurité, comme une confiance que Dieu est avec nous et que c'est Dieu qui le veut. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, vous voyez, encore après son appel, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ?» Pourquoi m'as-tu envoyé? Vous voyez un peu ce monde à l'envers, bien-aimé. Ce monde à l'envers. Pourquoi? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. L'Éternel dit à Moïse, et gardons ça dans nos cœurs, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit encore, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom l'Éternel, le grand Je suis, je n'ai pas été reconnu par eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux. Mon alliance, à laquelle il ne va pas défaillir, frères et sœurs, pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, dis à mon Église aujourd'hui, dirait le Seigneur, dis-leur, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, et je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Vous voyez l'engagement de Dieu avec nous, frères et sœurs. L'engagement de Dieu avec son peuple. Que ses paroles soient comme une encre dans nos cœurs. À chaque repas du Seder, tous les Juifs font mémoire avec les quatre coupes de ces quatre promesses. Je vous affranchirai parce que je suis l'Éternel, je vous délivrerai, je vous sauverai et je vous prendrai pour mon peuple. Et l'an prochain, vous serez avec moi, Jérusalem. Je suis avec vous, dit l'Éternel. Alors ne permettons pas à l'adversaire ou à nous-mêmes de nous empêcher d'entendre ce Shema Israël, d'écouter, comme on le voit, si tristement, dans le verset 9, « Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. » On est dans une angoisse, dans une fausse conception de Dieu. On est dans une servitude qui nous empêche d'entendre ses paroles qui sont vives, frères et sœurs. Alors avançons, Dieu va délivrer son peuple et il va l'amener en terre promise. Il va être avec Josué. Il lui dit, garde ma parole, et je serai avec toi, et tout ce que tu vas faire va te réussir. Comme je vous l'ai prêché la dernière fois, garde ses paroles, et il va être avec toi, il est fidèle, et il a été fidèle avec Josué. Et vous pouvez lire, Josué, tout à coup, lui apparaît l'ange de l'armée de l'Éternel. À nouveau, je vous pose la question, est-ce que Josué lui a demandé de venir? Il ne sait même pas qui c'est, et quand il voit qui il est, il se prosterne. L'ange, comme à Moïse, lui dit, « Ôte tes souliers, parce que là, tu es dans un lieu saint. Je suis avec toi. » Alors, après Josué, après cette conquête des peuples de Canaan, où là, on aurait de quoi ne pas survoler comme on le fait, mais parler de Jéricho, parler d'Aï, parler de Datsor, parler de toutes ces villes que Dieu a donné, ou combien il a été avec son peuple, et puissamment, frères et sœurs. On n'a pas un Dieu faible, mais un Dieu puissant. Quand tu t'engages avec lui, puisque c'est son cœur, de s'engager avec toi, il est puissant pour te délivrer, il est puissant pour te donner la victoire, et toute victoire du petit nombre sur le grand nombre. Tout nous est donné. Même dans ces deux fêtes, annexes, pourrait-on dire, des temps marqués par Dieu que sont Hanouka et Pourim. Dieu est avec son peuple et il retourne les situations sans cesse par ceux qui s'attachent à lui et qui ont confiance comme un Mardoché, comme un Judas Maccabée, qu'il est leur Dieu, qu'il est l'Emmanuel. Alors, on a maintenant tout ce temps des juges, 450 ans environ, frères et sœurs, 400 années consécutives de ce temps des juges où là encore, quelle patience, quel amour. On pourrait là encore s'arrêter et commenter plusieurs exemples de plusieurs juges qui nous montreraient encore ô combien Dieu est l'Emmanuel et ô combien il a toujours été là pour délivrer son peuple. Et là, j'aimerais dire quelque chose d'important, sans se lasser, sans se lasser. Le livre des juges, je veux insister sur le fait que Dieu ne se lasse pas, parce qu'il y a de quoi devenir fou, frères et sœurs, quand on étudie le livre des juges. La base du livre des juges, c'est quoi? C'est qu'après Josué, qui était attaché à l'Éternel, qui disait, « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et je veux faire mémoire par ces pierres que je mets devant vous. » Et tout le peuple dit, « Oui, 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 nous ferons. » Mais qu'est-ce qui se passe après dans le temps des juges? On a un peuple qui s'attache quelque temps à Dieu, mais qui s'écarte. Le Dieu qui est avec eux, l'homme s'écarte de lui, va loin de lui. Il tombe dans le péché. Alors les ennemis, les peuples étrangers, viennent l'asservir comme ils étaient asservis en Égypte. Alors, parce qu'ils souffrent, et non pas parce qu'ils aiment Dieu. Et là encore, Dieu aurait pu dire, mais maintenant stop, ça suffit. Et souvent, est-ce qu'on n'est pas comme ça? Parce qu'on est mal, parce qu'on a besoin d'être guéri, parce qu'on a besoin de ceci, parce qu'on a besoin de cela, parce qu'on veut bien vivre. On se sert de Dieu pour servir l'homme aujourd'hui, souvent dans l'Église. C'est une vraie abomination parfois, frères et sœurs, et je n'exagère pas. L'homme d'Église aujourd'hui, dans un grand pourcentage, se sert de Dieu pour aller bien, et non pas pour glorifier son nom. Et c'est ce que vous voyez dans les juges, et pourtant, et comme aujourd'hui, Dieu ne se lasse pas, et il reste à faire entendre sa voix pour sauver. Et il vient, et il ramène juge après juge. On a même une sorte de décadence qu'on observe dans le livre des juges. Mais Dieu vient inlassablement, et il lève un juge, et il sauve son peuple. Alors le peuple reste attaché à Dieu, et ensuite il s'écarte. Mais Dieu, il ne se lasse pas. Il reste, malgré le fait que l'homme, lui, il cesse d'être avec lui, eh bien Dieu, il reste avec l'homme. Il reste fidèle. Et j'aimerais qu'on prenne un exemple formidable dans la parole, bien-aimée, d'une femme, pour vous parler encore de ce cœur de fils et de fille du Dieu Tout-Puissant que nous sommes appelés à avoir, à vivre. J'aimerais qu'on prenne ce bel exemple, vous pouvez le prendre avec moi dans le livre de Ruth, au chapitre 1, et je vous inviterai à lire ce livre qui est rapidement lu et à méditer sur l'attitude de Ruth, sur tout ce qu'elle a fait, frères et sœurs. D'où, quel était le moteur, d'où vient tout ce qu'elle a fait, quel était le moteur de Ruth? Le moteur de Ruth, c'était l'amour, frères et sœurs, c'était un cœur humble et reconnaissant. C'était un cœur de fille. Ruth, frères et sœurs, elle avait compris du dedans d'elle, au dedans d'elle, elle avait compris tout ce que j'essaye de partager. Elle avait compris, et malgré la détresse terrible de Naomi, sa belle-mère, parce que Naomi, elle avait perdu son mari et ses deux fils, qui étaient morts. Ses deux fils, ça veut dire que Ruth, son propre mari, était mort lui aussi. Imaginez-vous un instant la détresse. La détresse de sa belle-mère, mais sa propre détresse à Ruth. D'avoir perdu son beau-père et son mari. Une femme qui perd son mari, surtout qu'elle était jeune, c'est quelque chose de très difficile, vous voyez. Et dans cette détresse, du sein de cette détresse, eh bien, elle a appris que Dieu avait visité le peuple de sa belle-mère. Elle a appris que Dieu avait visité ce peuple, qu'il était le pain vivant descendu du ciel, qu'il était l'Emmanuel, le prince et le sauveur d'Israël. Alors, bien-aimé, aussitôt, malgré tout ce qu'on pouvait lui dire, malgré tout ce qu'elle aurait pu se dire à elle-même, j'ai pas le temps d'insister là-dessus, mais méditez un peu sur cette femme païenne avec tout ce qu'elle avait vécu. Elle était dans la patrie de ses pères. Tout ce qu'on a pu lui dire, tout ce qu'elle aurait pu se dire, eh bien, tout comme Bartimée s'est jeté à crier de plus belle quand on voulait lui dire de se taire et s'est jeté sur Jésus et a été guérie, eh bien, elle s'est jetée corps et âme dans l'aventure de la foi, Ruth, frères et sœurs. Elle s'est jetée corps et âme dans le cœur même de Dieu qui était devenu son père. Parce qu'elle avait compris qu'il était ce Dieu avec eux. Voyez, on ne va pas tout lire, c'est pour ça que je prends ce verset 14. « Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, c'est la sœur de Ruth, mais Ruth s'attacha à elle. » Elles pleurent, elles sont dans la détresse, mais Ruth, elle s'attache à Naomi. « Mais Naomi, dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur, retourne. » Écoutez le cœur de cette femme. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser. Ne me force pas à t'abandonner. Ne me force pas de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort... « Viens à me séparer de toi. » Est-ce que vous voyez le cœur de cette femme. Mais vous savez quoi, frères et sœurs? Le cœur de cette femme, c'est une manifestation du cœur de Dieu. Et le cœur de cette femme, c'est tout ce que Dieu attend de nos cœurs. C'est tout ce que Dieu espère de nos cœurs. Oh, bien-aimés, si on pouvait être percé par ces versets. Percé par ces versets. Ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Alors, Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elle voyait que ce n'était pas possible parce qu'il y avait quelque chose qui était planté en Ruth. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, on va y venir, toute la ville fut émue à cause d'elles. C'est tellement beau. Frères et sœurs, Ruth avait compris et elle aurait pu nous parler de ce qu'est la vraie sanctification, de ce qu'est la vraie mise à part et aussi de ce qu'est la vraie crainte de Dieu qui jaillit d'un cœur aimant. Ô combien elle aurait pu nous parler. Alors je ne sais pas ce qu'est devenue sa sœur. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Mais tout comme le fils aîné, elle est restée dehors, frères et sœurs. Et on ne sait pas aussi qu'est-ce que le fils aîné a fait. Elle est restée dehors. Elle n'est pas allée à la maison du pain. Elles sont allées à Bethléem. Beth, ça veut dire la maison, Lechem, le pain. Elles sont allées à la maison du pain. Et elles ont croqué et elles ont goûté ô combien le Seigneur était bon. Et Ruth, elle a fait parce qu'elle était résolue dans son cœur à tout donner pour Dieu, parce qu'elle connaissait son Dieu. Elle a fait l'expérience de la provision de Dieu. Vous lirez et méditerez sur ce magnifique livre de Ruth et sur son attitude qui est tellement belle, tellement belle, tellement belle. Et elle a fait l'expérience de la fidélité de Dieu. Elle a goûté ô combien il était bon. Et vous connaissez l'histoire, la suite de l'histoire. Et qu'ainsi, ce psalmiste de feu, bien-aimé, celui qui a composé tous ces psaumes qui prouvent ô combien il connaissait les manuels, eh bien, vous savez d'où il est venu? Vous savez d'où il est venu? Dans sa descendance, la descendance de Ruth, c'est elle qui a donné David. Pourtant, cette même Ruth, elle était païenne, vous voyez. Elle était païenne, mais une païenne qui reconnaissait celui qui veut inlassablement être notre père. Inlassablement être notre père. Voilà. Je vais m'arrêter là et on reprendra ce soir avec David, avec le roi David, descendant de ce cœur de Ruth. Et on peut peut-être terminer par cette prière de Paul dont j'ai fait mention tout à l'heure dans la lettre aux Éphésiens, en faire notre prière, frères et sœurs. Éphésiens 3, versets 14 à 21. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que le Messie habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, qu'il habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, et que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Messie, l'Emmanuel, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.